carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see?
Bonjour amis auditeurs de RCF Alpes-Provence, nous recevons aujourd'hui pour ce nouveau carnet de voyage Mélanie Panaille, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ethnologue de formation.
C'est ça, exactement.
Mais surtout vous êtes passionnée de salsa.
De salsa, de voyage, de culture latine.
Vous en avez fait quasiment votre métier,
oui,
de la salsa.
Oui.
On va parler en première partie de Cuba, où vous avez été une douzaine de fois.
C'est ça.
Et puis en deuxième partie, plutôt de la salsa et de votre activité. Cuba, c'est une île qui fait en gros 1200 km par 200.
Voilà, une grande île très longue, fine, étroite, mais très longue. C'est la plus grande île des Caraïbes. Et voilà, c'est un univers à part entière, une histoire, une identité particulière. Cuba, c'est un voyage dans le temps. C'est lié à l'histoire, hein. On parle depuis 50 ans que le pays n'a pas beaucoup changé, ce qui est à la fois une chance pour ce pays qui a gardé son patrimoine et sa culture très forte, une identité bien spéciale, et qui à la fois du coup apporte aussi d'autres difficultés au pays. Mais c'est vrai que c'est un charme fou, avec une architecture très jolie aussi, des voitures américaines datant avant la révolution cubaine.
Ouais.
C'est un autre monde.
Et vous m'avez dit qu'il y avait encore des endroits préservés où il n'y avait pas énormément de monde.
Ben, en fait, c'est un pays qui n'est pas énormément peuplé, ou alors en tout cas concentré aussi dans les villes. Et il y a, y a de très jolis parcs naturels, des cascades, il y a des montagnes. C'est vraiment un paysage magnifique et tropical en plus. Donc c'est très verdoyant. Et il y a des petits coins de paradis qui sont encore bien préservés.
Vous disiez qu'il fallait aller à la source pour trouver l'authenticité. Vous parliez plutôt pour la salsa et en même temps pour la culture cubaine.
Alors moi, j'ai toujours aimé lier l'histoire, la culture à la danse. C'est-à-dire qu'une danse a un parcours, a une histoire, et est née d'une rencontre entre des peuples, des rythmes. Et pour moi, c'était impensable d'enseigner la danse sans être allé d'abord
à l'origine.
C'est-à-dire, une danse en contexte, on comprend mieux pourquoi on danse de cette façon, pourquoi ce rythme est là, pourquoi les gens bougent de telle ou telle façon. Ça a vraiment un sens. Moi qui aime beaucoup voyager et qui suis ethnologue, justement, j'étais très intéressée par ça. J'ai fait plusieurs voyages en Amérique latine, et c'est pareil au Brésil, en Colombie, au Mexique. Chaque pays a ses danses, et je pense que hors du contexte, on n'a pas la même compréhension de cette danse. Et pour moi, c'était vraiment d'aller plus en profondeur, c'était essentiel pour transmettre après.
Quand vous rencontrez les Cubains qui dansent donc la salsa originelle, il y a une différence avec ce que vous avez appris. Comment est-ce qu'on devient initié, entre guillemets, en salsa?
Alors c'est vrai que moi j'ai commencé à apprendre en France, mais j'ai voulu me spécialiser à Cuba, et en fait je me rends compte que il y a un très bon niveau de danse, mais tous les Cubains ne dansent pas spécialement. Ça s'apprend, c'est quand même une technique. Par contre, ils ont tous le feeling, ils ont tous le rythme, ils savent bouger leur corps, mais ils n'ont pas forcément les techniques. Il n'y a pas forcément d'école de danse là-bas pour Cubains. C'est en train de se développer.
Ouais.
Mais voilà, ce qu'on voit, la différence entre ce qu'on apprend un petit peu ici, où c'est plus, on va dire, technique, un peu plus académique, et ce qu'on voit danser là-bas, plus au feeling, moins carré, on va dire. Ils ont le plaisir du rythme, ils ont le plaisir de bouger, ils vivent la musique, ils vivent, voilà, ils s'expriment à travers la danse. Donc c'est pas une façon aussi codifiée, c'est beaucoup plus spontané, et ça signifie vraiment plus que nous qui sommes facilement rester sur des figures ou des techniques.
Et comment, au-delà des techniques, on peut trouver ce feeling?
Alors déjà, c'est sentir. C'est vrai que quand on est allé à Cuba, quand on revient en France, on entend la musique, on l'écoute différemment. Il y a des rythmes qui nous font vibrer. Ça, enfin, pour moi, en tout cas, la salsa cubaine et les autres rythmes cubains me prennent vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire que ça prend plus fort que ça. Après, on a envie de bouger, on a envie de danser. C'est quelque chose qui prend aux tripes. Et c'est ça que je sens à Cuba, en tout cas.
Et est-ce qu'on peut devenir un Cubain, danser comme un Cubain?
Oui, mais ça prend parfois du temps. Ça dépend aussi peut-être des propres résistances qu'on peut avoir nous par rapport à la danse, parce que il y a des mouvements qui sont quand même assez sexy ou
sensuel.
Caliente, sensuel. Il y a le corps qui a délié, enfin qu'on doit un petit peu dérouiller aussi. Donc c'est vrai que ça peut prendre du temps. Ça dépend aussi de l'envie de chacun d'aller loin, de dépasser ses propres blocages. C'est un travail corporel avant tout.
Ouais.
Et je pense que tout tout le monde est capable d'y arriver si on lâche, enfin, si on lâche prise.
Danser, c'est s'ouvrir sur le monde.
La musique et la danse, c'est deux mondes liés, étroitement liés, puisqu'on danse parce qu'il y a de la musique. Pour moi, ce sont des langages universels. Alors, chaque pays décline ça à sa façon, mais pour moi, c'est hors des mots, c'est juste une sensation, un ressenti et une façon de communiquer au-delà des langues et au-delà des frontières.
Il y a l'atmosphère cubaine. J'ai retenu une phrase magnifique. Cache ta douleur derrière ton sourire.
Oui. Malheureusement, alors c'est bien ce qui caractérise un petit peu la vie cubaine. Les Cubains sont joyeux. Ils rient, ils ont le sourire tout le temps. Ils sont heureux de vivre. Ils font la fête facilement. Quand ils font la fête, ils oublient tous leurs problèmes. Ce sont des vrais enfants. Mais vraiment, sincèrement, ponctuellement, spontanément, ils font la fête. Mais derrière, il y a aussi une réalité de vie qui est quand même beaucoup plus difficile, parce que un salaire cubain ne suffit pas à survivre.
Oui, c'est dans les 15 euros. Ouais.
Oui, un salaire moyen est 15 euros, mais il n'est pas adapté au coût de la vie sur place. Donc, ils sont obligés sans arrêt de résoudre des problèmes liés au transport, à la communication, à l'argent, trouver à manger. Alors, il n'y a pas de famine à Cuba, mais c'est vrai qu'ils sont toujours en train de trouver des systèmes des solutions pour bricoler, trouver une solution. Et puis avancer, quoi, continuer à vivre.
Vous m'avez dit que la religion était très importante. On appelle ça la santeria.
Oui, alors il y a une grande partie des Cubains qui est assez croyante ou pratiquante, ou en tout cas au moins respectueuse des croyances. Il y a à la fois le phénomène donc de l'arrivée du catholicisme avec la colonisation espagnole.
Ouais, qui restait présente.
Qui a été plus ou moins interdite à un moment parce que après la révolution, pardon, et qui revient en tout cas, même le pape est aller à Cuba. Donc la religion catholique est bien présente. Et il y a aussi l'influence de l'Afrique, où tous les esclaves venus d'Afrique via les Espagnols ou via les Français aussi, parce que les Français sont arrivés aussi d'Haïti et ont fui Haïti pendant la Révolution, ils sont arrivés à Santiago. Donc il y a aussi une grande influence française à Santiago et du coup dans tout le pays aussi.
Ils parlent peut-être un peu français à Santiago spécialement
Alors il n'y a pas forcément français, mais il y a un quartier qu'on appelle le quartier français. Et il y a des danses qui se sont créées, du mélange des danses françaises et des rythmes africains. On appelle ça la tumba française. Et ça, c'est ce mélange des rythmes africains, des percussions des esclaves qui imitaient leurs maîtres et qui mettaient les costumes aussi français et qui faisait le menuet, la contredanse, etc. Et de là sont nées beaucoup de danses cubaines en fait. Donc ce sont des histoires très liées, c'est pour ça que je dis que c'est intéressant de voyager et de s'intéresser à tout ça, parce qu'on comprend que l'histoire coloniale ou l'histoire entre de croisement de peuples et de cultures, quand on parle de danse et de religion, c'est aussi très lié, parce que la santeria, ce qu'on appelle la santeria, donc c'est les croyances africaines mélangées, on appelle ça le syncrétisme, mélangées aux croyances catholiques. En fait, les esclaves étaient interdits de pratiquer leur religion pendant un moment. Et donc, pour continuer à pratiquer leur culture et leurs croyances, ils ont associé chaque saint de leur culture, de leur croyance, à un saint catholique. Et continuer à vénérer leur saint tout en faisant croire qu'ils étaient catholiques. Et chaque orisha, c'est les dieux de la santeria.
Ouais, les divinités, ouais.
Les divinités, chaque orisha a sa danse. Et a son histoire, a sa caractéristique, a son caractère. Donc, entre eux, ils s'aiment, ils se séparent, ils se battent. En fait, ce sont presque à l'image des humains, sauf que ce sont des dieux. Et c'est intéressant de voir comment ils se comportent et comment ils dansent, parce que chacun a sa danse aussi. Ah,
ça fait un petit peu Vishnu indien, où il y a une multitude de dieux qui dansent.
Exactement.
Beaucoup.
Ouais. Même toutes les religions, on pourrait dire polythéistes en fait, on appelle ça des dieux intermédiaires en fait, qui fonctionnent avec le don et le contre-don, c'est-à-dire qu'on leur fait des offrandes, on leur donne un bout de gâteau, on leur donne un café, on leur donne un peu de rhum, du miel, on donne quelque chose, donc on demande quelque chose en échange, on veut obtenir quelque chose d'un saint, c'est comme un troc.
Ouais.
Ce qui n'est pas valable avec le dieu qui auquel il croit quand même, hein, le dieu de tous les dieux, là qui n'est pas dans le don et le contre-don, qui n'est pas à l'image de l'homme.
Vous m'avez parlé d'un verre d'eau qu'on donnait derrière la porte. Ça aussi, c'est une offrande.
Ça fait partie de la santeria. Donc, c'est vrai que des fois, on peut rentrer chez des Cubains et on voit derrière la porte un verre d'eau, ou on voit un petit bout de gâteau dans une coupelle.
C'est à nous de le donner
à la divinité. Chaque divinité qu'on vénère, on en a chacun plus ou moins une ou deux plus spéciale, eh ben on sait que cet orisha-là demande le lundi, il faut lui faire une offrande, donc il faut lui mettre un verre d'eau, ça c'est aussi pour porter chance, un petit gâteau ou du café ou du rhum ou du miel encore.
Ouais.
Donc chaque orisha a ses exigences et a ses demandes.
On a beaucoup parlé de Cuba, on va faire une petite pause musicale avec un morceau que vous m'avez amené.
Du son, musique traditionnelle, c'est l'origine de la salsa. Ça se danse très ressemblant, mais c'est l'origine de la salsa. Pour moi, tout le charme de Cuba, d'ailleurs de Santiago, c'est originaire de l'Oriente, donc la province de Santiago. Le son, musique douce, envoûtante, traditionnelle, que j'aime beaucoup et qui me fait voyager, qui me fait vibrer. Pour moi, c'est un peu comme le blues, tout ce qui raconte des histoires à la fois nostalgiques, mais à la fois d'amour. C'est tout un univers d'émotions.
C'est le blues épicé.
Exactement, voilà.
On écoute et ensuite on parlera donc plus précisément de ce que vous faites ici à Gap.
Ok.
Salí de casa una noche aventurera, buscando ambiente de placer y de alegría. Ay, mi Dios, cuánto gocé. En un sopor la noche pasé, paseaba alegre nuestros lares luminosos y llegué al Bacanal.
Bonjour amis auditeurs, nous sommes toujours avec Mélanie Panay. Un peu coincée sur son siège, vous avez envie de faire le tour du studio
Oui, dès que j'entends la musique, moi j'ai envie de danser.
J'ai compris qu'il y avait plusieurs salsas, plusieurs types
oui,
de salsas.
Oui, alors voilà, c'est pour quand on connaît un petit peu, en Amérique latine, tous les pays dansent. Hein, il y a beaucoup de musique, de fêtes et de danse. Et donc chaque pays a ses danses. Et ce qu'on appelle salsa, c'est un terme générique, ça veut dire sauce d'ailleurs, ça veut dire mélange, hein, la salsa.
Ouais, ouais.
Et chaque pays le décline aussi un peu à sa façon. Ça veut dire sa propre musique et sa propre danse. Donc moi je suis allée en Colombie, il y a la salsa colombienne, il y a la salsa de Cali précisément. C'est un style bien particulier avec une musique aussi. Il y a aussi la salsa, alors on la danse au Venezuela, on la danse à Porto Rico, donc la salsa portoricaine. Tout ça, ce sont des styles différents qu'on reconnaît quand on commence à connaître dans les rythmes et dans la façon de danser. La salsa cubaine, elle, est bien particulière aussi à sa propre façon de danser et ses propres rythmes. Alors le pas de base est le même dans le conte.
Ouais.
Et après, c'est les jeux de jambes qui sont différents, les figures qui sont un peu différentes, les façons de se déplacer. La salsa portoricaine, qu'on dit portoricaine d'ailleurs, mais qui est plutôt, je veux dire, américaine, parce que Porto Rico, c'est
à côté.
Une province, on va dire, des États-Unis, et plus sur une ligne de danse. C'est-à-dire qu'on danse à deux, mais sur une ligne, un peu comme le rock'n'roll, un peu comme le West Coast Swing. C'est la famille des danses américaines qui sont sur une ligne de danse. La salsa cubaine, elle est circulaire. Elle en tourne l'un autour de l'autre. Dure, elle fait en sorte qu'on soit toujours proche l'un de l'autre, en tournant. Je préfère ça parce que j'aime bien le fait d'être proche d'un autre. J'ai du mal à respecter cette ligne de danse contraignante. Ouais. Et je préfère la danse en cercle. Oui.
Il faut de la liberté dans cette salle.
Exactement. La liberté d'expression, la liberté de figure, de danse, de mouvement. Oui.
J'ai compris aussi qu'il y avait la liberté de changement de partenaire dans la rueda.
Oui, la rueda. La rueda, c'est une façon de danser la salsa en couple, mais aussi en groupe. C'est-à-dire qu'on se met en cercle.
Dites-nous quand est-ce qu'on change de partenaire.
Alors, il y a ce qu'on appelle un chanteur et qui annonce au fur et à mesure ce qui va se passer. Donc, il annonce les figures. Donc, c'est un petit peu comme une chorégraphie aléatoire puisque les noms signifient des figures. Donc, tout le monde connaît ces noms. Donc, il faut les apprendre au départ. Mais par contre, c'est au fur et à mesure que la personne l'annonce. Donc, tout le monde doit être attentif à ce que le chanteur dit et doit faire la figure de façon synchronisée, tous en même temps. Et on change de partenaire. Moi, entre autres, quand je le fais moi, donc on annonce pas mal de changements et on annonce des figures qui offrent aussi pas mal de possibilités. Puisqu'on change de partenaire, ça offre encore plus de combinaisons possibles. Et puis, on rajoute des pas, on rajoute des figures, des combinaisons, des changements, des tours, et c'est une façon ludique de danser, c'est une façon déjà de réviser tout ce qu'on connaît de la salsa, mais en même temps de danser avec tout le monde en même temps, quelque chose de collectif. C'est un jeu, parce que des fois on se trompe, mais ouais, c'est vraiment une façon de faire la fête. On se perd aussi, même des fois le chanteur fait un petit peu des blagues, donc c'est une façon de s'amuser.
Ouais, mais ça donne envie de le voir ça. Et on va parler maintenant déjà des stages.
On fait des stages sur toute la journée, différents intitulés d'ailleurs, salsa, bachata, kizomba, d'autres danses latino-africaines ou latino-américaines. Ouais. Donc sur toute la journée, différents stages avec différents niveaux, puis une soirée pour terminer à chaque fois. On essaie d'avoir toujours un temps fort, un rendez-vous important dans l'année pour mobiliser les danseurs, les gens rassemblés. Tout le monde aussi, parce que certains ne prennent plus de cours, d'autres sont aussi avec d'autres professeurs. Et donc, quand on a un moment fort, on rassemble tout le monde, et ouais, c'est ça qui nous tient à cœur. Autour de stages, on fait venir des intervenants extérieurs de loin, et c'est l'occasion d'avoir quelque chose d'exceptionnel, avec un repas cubain aussi, avec, on mettra un diaporama et un documentaire sur Cuba. Parce que c'est pareil, pour moi, j'aime bien que les gens soient enrichis aussi, pareil. Ils n'ont pas forcément l'occasion de voyager et d'aller à Cuba. Mais pour moi, ça reste important de partager ça et de pas oublier que la danse a une histoire, comme je disais tout à l'heure. Donc, partager cette culture, pour moi, c'est partager plus que les cours de danse avec les élèves et avec le public. Donc, on a choisi un documentaire produit par Arte d'ailleurs, donc j'en parlerai un peu plus à l'occasion où tout sera sur le site aussi, mais ça permet d'aller un peu plus loin dans l'ambiance, dans la culture cubaine et de comprendre un peu plus justement les racines africaines de la salsa, c'est à ça qu'on va s'intéresser, bref, tout un lot de spécialistes qui viennent nous partager leur passion, leur pédagogie, une variété de danse, voilà, pareil, kizomba, salsa, bachata, etc. Des stages pour tous, à la fois de reggaeton, d'afro, ou même des danseurs mais qui veulent découvrir une nouvelle danse. Le reggaeton n'est pas encore beaucoup enseigné ici, donc ce sera l'occasion de le découvrir. L'afro aussi, la rumba, tout ce qui est justement plus africain. Il y aura du coup le documentaire, il y aura le repas cubain, et puis ils pourront rester au début de la soirée pour voir aussi comment ça se danse et comment se passe une fête latine et voir l'ambiance. On essaie comme on peut de reconstituer l'ambiance qu'on trouve à Cuba. Bon, on n'aura pas la chaleur des tropiques, on n'aura pas mais on aura tous les autres ingrédients, la musique, la fête et l'animation des professeurs aussi.
On aura un authentique Cubain qui est professeur de salsa et qui est, comme par hasard, votre mari.
Aussi, voilà. Donc,
vous avez poussé la passion jusqu'à épouser un prof cubain.
Yohannis Pérez Romero, qui est lui de Santiago, que j'ai rencontré aussi là-bas, et qui a la même passion aussi de la danse, qui est aussi très bon cuisinier, donc c'est lui qui fait le repas. C'est vrai que j'ai eu la chance de le rencontrer à Cuba et que ça fonctionne aussi. De faire le pas, d'aller au-delà des frontières et de tout ce que ça représente de différences culturelles, de papiers et de démarches à faire, et puis aussi d'adaptation en France, dans une nouvelle culture, avec une autre langue. C'était toute une aventure et c'est pas encore fini. Mais c'est vrai que c'était une sacrée aventure de faire ce pas-là et d'avoir la confiance que ça marche aussi, parce que il y a aussi beaucoup de couples franco-cubains qui ne tiennent pas forcément sur la durée liée à la différence de culture et à cette
la différence de chaleur intérieure.
De chaleur et puis d'ambiance ici, c'est vrai que c'est pas du tout la même culture, la même ambiance. Les Cubains sont très nostalgiques de leur pays, de leur ambiance, et c'est pas évident pour eux de faire leur place ici et de s'adapter. Donc le fait de travailler avec Yoannis, ben dans la salsa déjà c'est une façon d'être assez proche de sa culture, et déjà je pense que c'est un bon point pour bah, vivre encore pas trop loin de son pays.
Je connais un autre Cubain, c'est Elizardo Plumer.
Oui, bah, on le connaît bien aussi, voilà, Galerie d'art.
Ouais, qui a fait une émission avec nous et qui lui aussi est nostalgique de Cuba.
Oui, ben reste cubain et très fier de sa culture.
Et vous faites des cours sur Barcelonnette,
oui.
Sur Embrun, sur Gap.
Oui, alors on voyage un petit peu parce que c'est vrai que ben, il faut aller chercher un petit peu là où il y a aussi du monde pour danser. Ouais. On est déjà plusieurs professeurs sur le département, donc c'est aussi à nous de bouger aussi parce que Gap, il y a un potentiel évidemment, mais on ne pourra pas faire un cours tous les soirs. Donc on se déplace, on va à Embrun, à Briançon, on va à Mans, et on va aussi jusqu'à Barcelonnette pour partager notre passion et puis faire qu'il y ait de nouveaux salseros chaque fois, sur différents niveaux de danse aussi. Puis on enseigne justement la rueda aussi, et puis le style, et différents niveaux de salsa. Et puis on verra après l'année prochaine si on propose d'autres surprises.
On va laisser votre site web.
Oui, donc c'est www.solidance.com, S-O-L-Y. Danse à la française, D-N-S-E.
Tout attaché. Hein.
Tout attaché, solidance.com, où là, vous avez à la fois les informations sur les cours, les soirées, les stages, et puis aussi sur un projet d'édition de carnet de voyage, justement. Moi, j'ai écrit donc un carnet de voyage avec toutes mes expériences cubaines. Donc, si vous voulez vous plonger dans mes anecdotes, dans mes rencontres à Cuba, je cherche un éditeur. Après, je suis preneuse de retour pour améliorer encore, mais le texte est prêt. Après, il manque des illustrations, j'ai plein de photos, de très belles photos sur Cuba. Cuba, c'est vraiment, on a envie de prendre des photos dans tous les coins de rue, ouais. Mais voilà, rajouter des photos, des petites recettes de cocktails ou de, voilà, pour que le carnet de voyage soit vivant. Mais voilà, vous avez des infos là-dessus aussi, et sur les voyages à Cuba aussi, puisqu'on organise des voyages. Donc c'est le 6e voyage qu'on organise, et à chaque fois les gens repartent séduits, ravis, émus, parce que c'est un pays qui émeut et qui touche beaucoup. C'est pas, ça fait partie des destinations qui comptent. En tout cas, moi, ça, j'ai beaucoup voyagé et ça fait partie des destinations qui ont marqué ma vie, comme le Brésil ou comme le Liban, qui ont des identités très fortes et des histoires particulières. Et Cuba, on en revient changé, on en revient touché. On a aussi des liens, on se fait des amis, des attaches fortes. Généralement, on dit qu'à Cuba, on n'y va pas une seule fois.
On y revient avec un mari, souvent.
Aussi.
Bon, merci Mélanie Panay de nous avoir guidés dans vos pas.
Ben, merci à vous, j'espère que vous aurez un peu voyagé, ou en tout cas l'envie d'avoir la curiosité d'en savoir plus sur Cuba et sur les danses.
Carnet de voyage. Une invitation.
Ooh, can't anybody see? We've got a world to find.